Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire bon, la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement. Elle a perdu son sens, non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. Bon, depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon. Manque de sens de cette distinction.
Pourquoi cette insignifiance? Par quel mécanisme cette classe politique serait-elle réduite à une impuissance? Puisque c'est le grand mot le plus employé en ce moment, c'est impuissance.
Ah non, c'est pas un grand mot, ils sont impuissants, ça c'est certain. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque, et même les socialistes, bon, ils n'ont pas fait autre chose, je crois pas qu'ils feraient autre chose si j'étais au pouvoir. C'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas? Bon, c'est des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen, c'est tout.
Le marketing politique.
Le marketing. Ils ont aucun programme, quoi. Ils ont pas vraiment de programme. Leur but, c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour ça, ils sont capables de tout. Clinton, par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça. Si je dis si, qu'est-ce qui va se passer? En prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique. C'est-à-dire, comme disait l'autre, je suis leur chef, donc je les suis, quoi. Mais ce qui est de fascinant dans l'époque, c'est comment ça conspire. Comme dans toutes les époques, d'ailleurs. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de, de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas ? Dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps. C'est, sans aucune conspiration d'une puissance quelconque qu'on pourrait désigner, tout conspire au sens, respire dans le même sens pour les mêmes résultats, c'est-à-dire l'insignifiance. Bon, la politique c'est un métier bizarre, même cette politique-là. Ça a toujours été un métier bizarre, pourquoi? Parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. La première capacité, c'est d'accéder au pouvoir. Si on n'arrive pas à accéder au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne sert à rien. Ça implique un art de l'accession au pouvoir. La deuxième, c'est une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de gouverner. Bon, Napoléon savait gouverner. Clémenceau savait gouverner. Churchill savait gouverner. Bon, c'est pas des personnes que j'aime particulièrement, ni qui sont dans mes cordes politiquement. Je décris maintenant un type historique. Bon. Or, rien ne garantit que quelqu'un qui sait gouverner sait accéder au pouvoir. Oui. Alors, dans la monarchie absolue, accéder au pouvoir, c'était quoi? C'était flatter le roi. C'était dans les bonnes grâces de Madame Pompidou. Pas Pompidou, Pompadour. C'est un joli lapsus.
On le gardera.
On le gardera. Bon, de Madame Pompidou, la pauvre d'ailleurs, elle ne mérite pas ça. Bon, et puis après, ce qui se passait quand on était au pouvoir, c'était autre chose. Dans la forme de pseudo-démocratie sous laquelle nous vivons, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion publique.
Vous dites pseudo-démocratie, on attaque la classe politique, d'accord, c'est une tradition, là vous la définissez donc comme insignifiante, comme suivant le cours de l'opinion. Il y a l'opinion, il y a les citoyens, qu'est-ce qu'ils foutent ces citoyens?
Ben, les citoyens ne peuvent pas foutre grand-chose, parce que je dis pseudo-démocratie d'abord parce que j'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu de les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes, ou des intérêts particuliers, ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, hein. Les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Or, même ça, c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit, voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Il vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent. Bon. À suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens ne sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins, et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui, ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois, les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon, mais autrefois, c'était pas mieux au sens, c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés à partir de la révolution américaine et française, jusqu'à peu près la deuxième guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient. Ils manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF, ce qui, je dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève. Ils faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça a marqué ces deux siècles. Or, depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification. Ils disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Vous voyez? Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, il n'y peut rien.